Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana, comment
ça
vas-tu?
Ah, moi je vais très bien, et
ouais.
Toi?
Ah, moi je vais très très bien après un week-end lumineux, chaleureux, ensoleillé, au bord de l'eau, c'était magnifique.
Oh, ça ne te quitte pas l'esprit?
Non.
Parce que là nous sommes déjà samedi, ça fait une semaine, t'as passé la semaine à penser à ce week-end quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, j'y pense souvent.
Eh ben parce que la semaine est lumineuse, tu vois ce que je veux dire? On a plein de soleil et tout ça, enfin. Je vais partager avec vous ce matin des belles rencontres dans la nature et aussi avec des animaux, mais pas que, bien sûr. C'est d'abord des rencontres humaines. C'est Paolo Cognetti qui a écrit en 2021 un livre qui s'appelle « La félicité du loup » qui est paru dans une collection très spécifique, la Cosmopolite chez Stock. Et c'est un livre qui, quand je l'ai lu, j'ai adoré, Sandrine. C'est pourquoi j'ai très envie de partager avec toi et avec les auditeurs, les auditrices de Canal B. Parce que quand il fait chaud, eh ben, figure-toi que j'adore lire des histoires de montagne avec de la neige et qu'il fait froid. C'est bizarre, non?
Ah, quelle trop bonne idée, mais j'adore. Mais oui, mais c'est super. Effectivement, se rafraîchir par les livres. Magnifique.
C'est
quelle
beau,
bonne
ça.
Idée.
Oui,
j'adore.
Ça. Toi, aujourd'hui, tu vas nous parler des poésies.
Absolument, je suis complètement amoureuse de la poésie, peut-être amoureuse de l'amour, et dans ce livre, Et recoudre le soleil de Gaël Josse, publié chez Notabilia, nous allons plonger dans des petits textes non paginés, c'est ça que j'adore, ça peut s'ouvrir, vous savez, un peu comme quand on ouvre une fenêtre, quand on est dans un train, qu'on voyage, et d'un seul coup on lève les yeux et on regarde le paysage, l'horizon. Alors là nous allons rentrer dans des magnifiques paysages de Gaël Josse, qui est une femme, une écrivaine que j'adore.
Génial. Pour compléter cette émission, il y a Blaise qui n'est pas avec nous en studio aujourd'hui, mais qui nous a tout de même préparé sa petite chronique pour la fin d'émission.
Génial.
J'en ai ravi.
Oui.
On va l'entendre à la fin de l'émission. Je ne vais pas spoiler de quoi elle va parler parce qu'elle aime bien dire « ouais, je vais faire la surprise ». Donc, je vais la laisser la surprise. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Je peux commencer avec Paolo Cognetti.
Mais bien sûr, avec bien. Grand plaisir, Juliana.
Donc, cet auteur... italien qui a connu un énorme succès, notamment avec son livre précédent qui s'appelle « Les huit montagnes », un succès mondial. Il était même adapté au cinéma et d'ailleurs ce film a été présenté, si je ne m'abuse, au Festival de Cannes il y a, je ne sais pas, deux, trois ans, je ne sais plus. En tout cas, lui, en 2021, il a publié « La félicité du loup », un livre qui a été écrit donc en italien et traduit par Anita Rochedi, qui est une traductrice qui avait déjà travaillé avec cet auteur. Et ça, c'est important, puisque Anita, elle a saisi vraiment toute la subtilité de l'écriture de Paolo Cognetti, qui est une écriture d'un sensible, d'un émouvant, d'une simplicité, mais en même temps envoûtante, puisqu'il nous prend vraiment là où on connaît. Il vient parler de l'intime et quelque chose qui nous est très proche. Et là, dans La félicité du loup, il exploite encore une fois une de ses grandes passions, c'est les auteurs, c'est la montagne, c'est la nature, c'est comme tu dis, les paysages. Donc on va plonger avec lui dans ces paysages, mais on va parler d'amour. On va parler des histoires d'amour et d'amitié. Fausto, qui est son personnage principal, va rencontrer Sylvia dans un lieu, dans la montagne, qui s'appelle Fontana Freda. Et ce lieu-là, il y a un restaurant avec une femme qui tient ce restaurant, Babette, et qui a appelé son restaurant Le Festin de Babette. Alors, Le Festin de Babette. Franchement, quand on connaît le livre et le film,
oui.
Magnifique cette histoire de cette Française avec tous ces gens d'une rudesse et qui fait un repas somptueux, enfin bref. Allez-y, regardez Le Festin de Babette si vous voulez. Moi, je vais rester sur La félicité du loup. Donc, Fausto va rencontrer Sylvia, elle est serveuse, lui est... Normalement, il est écrivain, mais là, il est fait de la cuisine parce qu'il se trouve dans cette montagne. Et Sylvia, elle... pourrait être une artiste également. Et elle a fait le service dans ce restaurant. Un restaurant, on sent chaleureux, une ambiance montagnarde, quelque chose qui va nous dévoiler donc la vie dans la montagne avec les autochtones, mais aussi les saisons. Et durant cet hiver, là où ils vont se rencontrer, ils vont se lier d'un amour-amitié qui va peut-être les aider à venir penser leurs blessures. Et ils ont tous les deux des envies de montagne qui vont à un moment donné leur faire se séparer parce qu'elle a envie d'aller très très haut et lui il a besoin quand même de retourner à Milan dans la ville pour pouvoir définitivement quitter la vie qui l'est attachée là-bas puisqu'il va dans la montagne suite à une séparation. Voilà, voilà. Et il y a d'autres personnages qui vont s'acoquiner dans ce livre et qui vont nous amener à la rencontre, et notamment du loup et d'autres animaux. Et ça, c'est très, très chouette. Il y a aussi toute cette ambiance des gens qui vont découvrir la montagne, qui vont aller d'une manière très sportive ou alors très contemplative. Paolo Cognetto nous fait voyager. On est dans une ambiance fraîche. Et ça fait du bien, encore une fois, de lire ces lignes, de sentir la neige alors qu'il fait une chaleur écrasante. J'adore cette dualité entre la saison que nous sommes en train de vivre à l'extérieur et cette ambiance dans laquelle on plonge dans un livre. Tu disais très bien, si bien tout à l'heure, se rafraîchir par le livre. Donc, je vais me permettre de lire les deux premières pages du livre très rapidement.
Avec plaisir.
Avant de te donner la parole. Donc là, le premier chapitre s'appelle « Un petit restaurant ». Les chapitres, ils sont somme toute assez courts. Il y a une vingtaine, un peu plus même. Je vais vous lire les deux premières pages. Fausto avait 40 ans quand il s'est réfugié à Fontana Fredda, dans l'espoir de trouver un endroit pour recommencer. Il connaissait ces montagnes depuis qu'il était enfant. Et le mal-être qu'il ressentait lorsqu'il était loin avait été l'une des causes, si ce n'est la cause, des problèmes avec celle qui était presque devenue sa femme. Après leur séparation, il y avait loué un meublé là-haut et passé un septembre, un octobre et un novembre à s'échiner sur les sentiers, à ramasser du bois en forêt et à dîner devant le poêle, savourant le sel de la liberté en remâchant l'amertume de la solitude. Il écrivait aussi, ou plutôt il essayait. À l'automne, il vit les troupeaux quitter les alpages, les aiguilles des mélèzes jaunir puis tomber, jusqu'au jour où, aux premières neiges, même en ayant réduit ses besoins à l'os, il finit par ne plus avoir un sou de côté. L'hiver lui présentait la facture d'une année difficile. Il y avait bien des contacts à Milan auxquels il aurait pu demander du travail, mais pour cela, il fallait descendre, passer des heures au téléphone, régler les questions en suspens avec son ex, et un soir, peu avant de se résoudre, le hasard voulut qu'il se confie devant un verre de vin dans le seul lieu de rencontre de Fontana Fredda. Derrière son comptoir, Babette le comprit parfaitement. Elle aussi était de la ville. Elle en avait gardé l'accent et une certaine élégance, mais qui sait à quelle époque et par quel chemin elle était arrivée là. Un jour, elle avait repris un restaurant dans un coin qui n'offrait d'autres clientèles à la mi-saison que celle des maçons et éleveurs de bétail. Elle avait baptisé le festin de Babette. Depuis, tout le monde l'appelait ainsi. Nul ne se rappelait son nom d'avant. Fausto avait sympathisé avec elle parce qu'il avait lu Karen Blixen et cru deviner ce qu'il y avait derrière son choix. La Babette de la Nouvelle était une révolutionnaire qui, après la chute de la Commune de Paris, s'était retrouvée cuisinière dans un petit village des Rustres en Norvège. La Babette qu'il avait devant lui ne servait pas de soupe à la tortue, mais avait tendance à adopter les orphelins et à chercher des solutions pratiques aux problèmes existentiels. Quand elle a eu écouté les siens, elle lui demande « Tu sais cuisiner ?» Voilà. Le début de l'histoire, une histoire magnifique que je pense vous allez pouvoir découvrir sur le sable chaud avec cette ambiance de montagne.
Ça donne très très envie. Et puis merci pour ta lecture. Et puis en plus j'adore ces évocations de livres à travers d'autres livres.
Ouais.
Ça ouvre des portes, des tiroirs, un imaginaire. Et j'ai très envie de le lire, donc merci beaucoup pour cette super proposition, Juliana.
Eh bien, tu vas partir d'ici avec, ma chérie.
Avec grand plaisir.
Oh yeah, nous sommes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, et ça c'était pour mettre un petit peu de peps. Ouais, parce qu'on contraste, hein. C'est comme la neige et le soleil, maintenant c'est la poésie quoi, derrière, un truc doux avec ta voix magnifique. Allez Sandrine.
Alors, merci Julia pour tes compliments, je te les retourne d'ailleurs, et je suis ravie que tu me prêtes Paolo Cognetti parce que j'ai très envie d'être un peu au frais par la lecture, par les mots, par l'histoire. Voilà, tu as su décrire et me donner envie, et ça j'adore, donc bravo pour ton talent. Alors je vais vous parler d'une femme que j'aime particulièrement aussi, Gaëlle Josse, une autrice, une écrivaine. Alors qui est-elle exactement? Donc c'est une femme de lettres française qui a fait des études de journalisme, de psychologie et de droit. Et j'ai envie de dire que dans ses écrits, ça se ressent. Alors, surtout, peut-être la psychologie par son analyse, non pas comme une définition des caractères des personnages, mais plutôt parce qu'on va aller très vite au cœur des sensations, des sentiments, des émotions. Elle dépasse le stade de la superficialité pour aller dans une forme d'intimité, de nudité, de quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui me touche quand les auteurs et les autrices disent, font apparaître, nous plongent au cœur de l'intime. C'est quelque chose qui me bouleverse. Et ce livre est bouleversant d'émotions. Il s'appelle « Et recoudre le soleil ». Alors, Gaëlle Josse a commencé sa carrière à travers la poésie. Elle a écrit beaucoup d'autres textes de poésie, notamment à partir de 2005. Le premier s'appelait « L'empreinte et le cercle ». Il y a eu aussi « Carnet du Leonardo Express » ou « Les tambours frappés à main nue ». Et puis, bien sûr, les romans dont je pourrais peut-être parler lors d'une autre émission. Moi, j'aime beaucoup ce texte. C'est de la prose lumineuse. Tu sais, c'est comme le soleil qui réfléchit justement sur la neige. On est sur ça, une double intensité. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ça fait du bien. Et moi, c'est un texte que j'utilise beaucoup lors de mes lectures à haute voix parce que c'est un... J'aime dire que c'est une prescription littéraire.
Waouh !
Voilà, quand on a besoin un petit peu de lumineux, quand on en a tous besoin, moi la première, eh bien je plonge la tête, le corps, les yeux, la première, dans « Et recoudre le soleil ». Et je me fais des shoots de bonheur. C'est un livre qui coûte très peu, vous pouvez le trouver chez Lefayre, dans toutes les librairies, sinon vous pouvez surtout le commander chez votre libraire préféré. Et pourquoi la poésie ce matin ? Parce que là, on plaisantait tout à l'heure sur le fait que je repensais à mon week-end, mais j'y repense comme, vous savez, quand on va chercher, on va retrouver des sensations. Et ces sensations, on les retrouve aussi à travers ce livre, où on peut, dans des moments difficiles d'une semaine, des moments un peu éprouvants, eh bien, aller chercher en soi ce qui nous fait du bien. Et ce week-end, justement, m'a fait du bien. Et ce texte de poésie fait du bien. Et j'ai envie de l'élargir de manière plus universelle. En quoi la poésie nous fait du bien ? Voilà, c'est la grande question du ce matin. Vous avez encore 2 heures pour répondre.
Laissez-vous vous infiltrer. Laissez la poésie vous infiltrer.
C'est exactement ça. C'est une infiltration, une imprégnation. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Alors moi, je pourrais évidemment vous donner ma réponse. Et c'est un petit peu ce que je vais faire. Moi, j'aime cet ouvrage parce qu'il nous éveille, il nous réveille. Tu sais, on met le R entre crochets. Voilà, deux mots différents. Mais pour moi, c'est très important. La poésie, elle est là justement à travers des petits textes, des petites phrases. Dire beaucoup, on rentre dans un imaginaire, c'est évidemment que le livre le permet, bien sûr, la littérature. Et en même temps, voilà, c'est aussi autre chose. Et on rentre dans quelque chose d'extrêmement émotionnel. Ce texte-là m'enveloppe, ce texte-là me fait comprendre la beauté de l'instant vivant, la beauté du moment. C'est une véritable invitation au plaisir. Moi, je l'aime parce que, voilà, je l'utilise parce que c'est un texte qui nous met en mouvement. Tu sais, c'est un texte qui donne envie d'être amoureuse. Ou si on l'est, de l'être encore plus. C'est un texte qui dit les choses. Donc, voilà, je vous le conseille parce qu'il nous fait du bien. Et je vais un peu me taire et je vais laisser Gaëlle Josse dire... Pourquoi elle a écrit ce texte ? Donc je la cite, hein, et après je lirai quelques extraits de ses poèmes. Gaëlle Josse dit « J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l'infime, comme le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos vies. l'éclosion d'invisibles soleils. Peut-être à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement. Elle est le regard nu, la poésie, débarrassée de ce qui pèse, de ce qui encombre. Elle est le retour à la source, la lumière qui s'attarde sur un mur, le frémissement qui parcourt un visage, la chaleur d'un corps aimé. Elle est le mot que l'on attend et qui nous sauvera, peut-être. J'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette moisson de mots cueillis, jour après jour, qu'ils aient été d'orage ou d'allégresse, mais vivants. Vivant, oui, et vibrant, toujours.
Waouh, c'est beau, c'est beau.
C'est magnifique, Gaëlja, c'est vraiment une écrivaine de l'émotion, de la sensation et du partage aussi. Elle est généreuse, son écriture est
extrêmement généreuse. Elle nous arrache le sourire.
Tout à fait.
Un sourire intime.
On est dans l'allégresse et pour autant, on n'oublie pas, tu sais, comme dans une montagne, le versant lumineux et le versant d'ombre. Et comme j'aime à le dire, s'il y a l'ombre, si nous traversons toutes et tous nos zones de fragilité, c'est bien aussi parce qu'à un moment donné, il y a le soleil. Donc l'ombre fait aussi à un moment donné surgir, ressurgir le soleil. Est-ce que tu veux que je te lise que je vous lise un extrait?
Oui.
Alors, je vais vous lire. Gaëlle Josse et recoudre le soleil. Les herbes sèches s'accrochent à mes jambes. Je marche au pas, à côté de mon cheval. Nos épaules se touchent dans un balancement d'horloge lente. À la nuit tombée, le sentier s'efface. Il faut avancer encore. Je lui parle, ma voix le rassure. Je lui dis des contes anciens où les chevaux volent par-dessus les champs, par-dessus les océans. Alors, nous avançons. Toujours, et ses sabots me montrent le chemin. Et recoudre le soleil sur nos ciels fatigués, abondance de rubans pour caresser nos épaules et accompagner ce pas de danse qui se découvre, incrédule, joyeux, fragile. La chair du fruit sous son velours déchiré, main ruisselante et l'ombre qui joue sur l'herbe vive, l'instant où tout est pardonné.
Wow.
Un livre, une chambre, les raies de soleil entre les volets, la vie qui bruisse dehors, un aboiement, un ballon, des cris, une radio, plus loin encore, toutes les vies mêlées.
Magnifique.
Puisque nous marchons sur le fil, sans avoir appris, chaque pas est à inventer. Et parfois les jours tempêtes nous trouvent tremblant, démuni, secoué d'éclairs. Mais il faut aller jusqu'au bout. Visage, 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 tant de rivages, tant d'inconnus. En exil, de quelle histoire, sous la peau, à fleur de sang, à fleur de souffle. De quel paysage, de quelle musique oubliée. Et sur la courbe d'une joue, s'attarde l'écho d'une lointaine enfance. Une boussole pour éclairer les nuances de la nuit et dire l'âge du vent avant que tout ne s'efface.
Magnifique, Sandrine.
Qu'est-ce que c'est beau, Gaëlja. Merci beaucoup pour ce bonheur.
Magnifique. Si tu veux bien, on va rester comme ça en suspens avec Gaëlja et on va entendre un autre poète.
Avec plaisir.
Tiens, au soir, la figure, on est là. Elle et moi, au sabre, nous fendons le brouillard. La figure est là, du matin jusqu'au soir. Et la nuit aussi, elle est ici. Nous épousons ce val obscur. Comme une seule chose, une épissure. La nuit aussi, la figure est ici. Quand je fume, nous sommes deux amis à qui sourit la vie. C'est un agrégat qui n'est pas nouveau. Nous nous sommes connus au berceau, au landau. Nous sommes montés en neige. Je suis le fardeau que la figure allège. Deux amis à qui sourit la vie. Nous sommes deux amis, à qui sourit la vie, à qui sourit la vie, à qui sourit la vie, la vie.
On va changer d'ambiance, hein, parce que Blaise nous a préparé une chronique, donc si tu en es d'accord, Sandrine, bien sûr, c'est maintenant que ça se passe.
Salut Canal B, aujourd'hui je vais vous présenter Radium Girl. Alors l'autrice est ici et la maison d'édition c'est Glénat. Cette BD parle d'un groupe de filles que l'on surnomme Ghost Girl. Ce groupe de filles travaille toutes dans une même boîte qui fait des montres à base de peinture de radium. Et leur boulot est de peindre 250 cadrans par jour. Tous les jours, du coup, vu qu'elles vont peindre les cadrans, elles vont avaler de petites quantités de radium. Parce qu'elles ont un mouvement régulier nommé Leap Deep Paint. Leap, je lisse mon pinceau. Deep, je prends de la peinture. Paint, je peins. Le premier mouvement Leap, c'est mettre le pinceau dans la bouche pour l'humidifier. Elles vont avaler un peu de quantité de radium à chaque fois. Et vu qu'elles le font tous les jours, elles vont mourir à petit feu, à l'intérieur d'elles, jusqu'à mourir complètement. Parce que le radium va le ronger tout là à l'intérieur du corps. Et ça va provoquer des douleurs de dents, pour commencer. Ensuite, ça va faire des douleurs aux os. Le radium va leur détruire complètement leurs globules rouges. Et elles risquent de mourir dans leur propre sang, parce que ça va provoquer sans doute une hémorragie interne. Et de cancer aussi. La vraie histoire se passe aux États-Unis en 1920. Et ce qui est terrible, c'est que personne ne leur a rien dit. Qu'à un moment, Grace, un personnage dans l'histoire, va lisser le pinceau à ses lèvres et il y a le professeur, un docteur qui vient et qui lui dit « Ne lisse pas le pinceau, ça va te rendre malade, ne le mets pas à la bouche. » Et du coup, ça va l'inquiéter, elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Elle demande pourquoi personne ne lui avait rien dit de tel. Et du coup, elle va en parler à ses copines. Et elle va en avoir le cœur net, elle va quand même parler à sa supérieure pour lui demander. Mais sa supérieure va lui dire qu'il n'y a rien du tout et qu'il racontait n'importe quoi. Mais en fait, juste au-dessus de leur boîte, il y a un laboratoire avec les personnes qui manipulent du radium avec des protections. Parce que le radium, c'est très toxique. Et personne ne va rien leur dire pour qu'elles travaillent. Parce que sinon, personne n'accepterait le poste. Personne ne voudrait travailler. Et vu qu'ils doivent faire au moins 250 cadrans par jour, eh ben, ils préfèrent qu'ils mettent le pinceau dans la bouche. Les personnages principaux de la BD sont Grace, Molly et Edna. Il y a d'autres femmes aussi, c'est pas le groupe entier, mais là je vous ai cité les personnages principaux de l'histoire. Et de ce fait, quand elles vont la prendre, parce qu'au début elle va commencer à avoir des douleurs, elles vont aller voir des docteurs, et ils vont réussir à voir qu'en fait elles ont du radium en elles, et qu'elles ont une intoxication du radium, et qu'elles vont mourir, et il n'y a aucun traitement à faire, c'est irrécupérable. Et du coup elles vont quand même faire des tests, souffler dans un tuyau pour voir quelle quantité de radium elles ont dans le corps, et du coup combien de temps il leur reste à vivre. Il y en a quelques-unes où il leur reste que quelques mois à vivre. Il y en a d'autres où c'est un an ou deux. C'est très triste, c'est très très triste. Et c'est vrai en plus. L'autrice, si, elle a voulu s'inspirer de cette histoire parce que quand elle a vu cette information dans Twitter ou Facebook, eh bien, elle s'est révoltée et s'est dit « Je vais la mettre en BD pour que tout le monde, dès que mon livre va sortir, pour que cette histoire existe aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde sache que c'est vrai. » Et ces femmes, elles vont prendre un avocat et passer à la justice. Grâce à ces femmes, eh bien, une loi va être votée aux États-Unis comme quoi il n'y a plus le droit d'embaucher des gens comme ça et rien leur dire alors que c'est dangereux, mais des vies au péril du travail comme ça. ces femmes, au tout début, ne pensaient tellement pas que ça leur faisait aller rien leur faire, que c'était pas grave, c'était juste de la peinture, que cette peinture, du coup, le radium, est fluorescent dans le noir, ça brille dans le noir, parce que c'est un produit toxique, mais qui brille dans le noir. Et c'est pour ça qu'elles l'utilisent pour les montres, c'est pour qu'on regarde dans le noir l'heure. Et de ce fait, elles vont, pendant des fêtes, leur peindre sur les ongles et sur les dents. Et elles croient que ça va leur faire, mais en fait, ça a des conséquences. Parce qu'elles se sont fait tromper par leur boîte et leur supérieur. Personne ne leur a rien dit, à part ce docteur. Déjà, c'était bizarre. Et puis après, les informations. Elles sont passées dans les journaux. J'aime beaucoup le dessin, parce que je trouve que c'est très bien fait. J'aime bien comment sont faites les mains. On dirait des pattes d'ours dès que c'est fermé. En fait, ce sont les doigts. J'aime bien parce qu'elles dessinent très bien de profil. Et moi-même, c'est pas mon point fort. C'est vrai que c'est un peu les mêmes couleurs, mais je trouve que ça correspond bien au personnage. Les couleurs sont vert, principalement blanc, noir et mauve. Ces femmes travaillaient ensemble, mais en même temps, elles se voyaient toute la journée. Vu qu'elles avaient le même boulot, mais en dehors de cela, elles sont très bonnes copines, elles sont allées se baigner ensemble, elles allaient faire la fête ensemble, elles pique-niquaient ensemble, bref, c'était des amies très rapprochées, elles passaient tout leur temps tout ensemble. Je recommande cette BD Radium Girl pour les 14-15 ans, parce que cette histoire peut être un peu choquante. Et surtout, faut avoir le sens du détail quand on lit cette BD parce que faut bien suivre l'histoire. Eh bien, moi, ça m'a choqué parce que de savoir que quelque part dans le monde, on a laissé faire une telle chose, ça m'a révolté. J'ai trouvé ça injuste. Et je remercie beaucoup l'auteur de l'avoir publié. Ça permet que tout le monde puisse le lire parce que moi, si je n'avais pas lu, je n'aurais pas su cette nouvelle.
C'était chouette encore, hein?
Mais oui, oh, merci Blaise.
Merci Blaise, trop bien. Sandrine, bon week-end à toi.
Mais à toi aussi, à Blaise et à nos auditrices et à nos auditeurs, on vous embrasse.
Oui, on vous embrasse, allez bisous, bye.
Écoutez Le Nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous, bye.
Bye.